référence pour votre horoscope puis vos avis de décès. Voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
418-971-1001, s'il se passe quelque chose sur la route, ça vous tente de participer à l'émission. On salue la belle communauté sur Twitch, BLVD, barre en bas, FM. Vous êtes une quarantaine, une cinquantaine à cette heure-ci. Vous avez la chance d'écouter les discussions que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir, du moins pendant les publicités. Pinchot qui est là, qui jase de ses jeux de mots qu'elle a fait la veille dans l'émission du retour. Je sais pas si on va la réentendre en promo, mais moi, j'ai failli prendre le décor. Ouais, il y a des fois, tu dis des choses que je trouve formidables.
Ben, l'heure de 17h est difficile. Ouais. Oh, ouais, c'est... Oui. On remarque ça.
Ouais, c'est ça. La dernière où tu es plus fatigué, c'est ça?
Oui, ben là, on est un peu plus fatigué lors du super. Ouais. Je sais pas.
Et pour faire rapide, là, pour ceux qui n'étaient pas là hier dans l'émission du retour avec Denis et Véro ainsi que Pinchot, ben Denis a demandé à Pinchot pourquoi elle jouait pas ou pourquoi tu faisais pas d'autre chose que chanter. Puis tu as dit, ben moi, le hockey, je suis juste bonne avec ma bouche.
Oui, c'est ça. Ben, ce que je voulais dire, c'est que j'allais animer la soirée de la Game Boulevard avec Hello, que j'allais chanter l'hymne national, mais que je...
Mais moi, je ne l'ai pas compris de même.
Non, mais personne ne l'a compris de même. Je suis une femme incomprise.
Je pense que j'aurais payé pour voir la tête à Véro.
Mais c'est ça qui m'a fait
Véro
réaliser.
Véro a arrêté de vivre. Là.
Le Véro,
c'est un appel à l'aide. Là,
le
Véro,
souffle
là.
Coupé en me regardant, en voulant dire « Tu viens-tu vraiment dire ça? »
T'as-tu vraiment dit ça? Ben oui. C'est ce qui donne ta couleur. Ouais. Hey, Audrey, t'as écouté un documentaire pour nous.
Oui, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que ça fit avec la crowd. Puis j'ai le goût que vous participiez 88-971-1021. Vous avez des gars dans ces âges-là, vous observez des affaires ou vous êtes déjà passé par là, peu importe. Ouais. Je pense que ça touche pas mal tout le monde. C'est un documentaire qui s'appelle Adonis. C'est sur Télé-Québec depuis hier. C'est sorti à 20h. Puis on veut passer un message, en fait, avec ce documentaire-là. C'est qu'il y a comme une crise de santé publique qui se joue en ce moment, qui est relativement subtile. Ce qu'on dit, c'est que de plus en plus de jeunes hommes qui consomment des stéroïdes pour obtenir leur corps de rêve. De là, le documentaire Adonis, on se comprend. Ouais. Le gars qui est derrière ça, c'est un cinéaste qui s'appelle Jérémy Battaglia. Lui, en fait, a été un peu dans ce milieu-là, a subi les conséquences, puis c'est pour ça qu'il voulait faire ce documentaire-là. Lui, il voulait devenir, à l'âge de 11 ans, Arnold Schwarzenegger, OK? C'était vraiment son objectif de vie, au point d'en souffrir à un certain moment dans sa vie de troubles alimentaires. Il s'est mis à avoir une obsession pathologique pour son image corporelle, il s'est mis à consacrer sa vie au sport, mais à un extrême qui faisait pas trop de sens. Puis les intentions de base sont quand même nobles, parce que t'entends beaucoup de jeunes garçons dans ce documentaire-là disent qu'ils veulent renforcer leur confiance en eux, devenir responsables de leur propre bonheur, mais ils misent sur leur corps pour plaire puis pour arriver à ces objectifs-là.
Ce qu'une femme n'a jamais fait.
Non, mais t'as raison. Mais Yann, écoute, je vais te briser en partant. T'as raison. Puis ce que je trouve intéressant avec ce documentaire-là, c'est qu'on parle toujours un peu de la femme puis du positivisme, du corps féminin. On essaye de briser ça dans la société, que les formes, c'est beau, pas besoin d'être en shape. Pis... Mais on parle rarement du gars parce que le gars a l'air de s'en foutre un peu plus.
Tu sais, de prendre Arnold Schwarzenegger comme idole, c'est pas une idée super folle. Si tu le prends juste pour les muscles et tout ça, puis les stéroïdes, tu comprends que ta pensée est pas super. Mais si tu prends Arnold Schwarzenegger, c'est un gars qui est un immigrant.
Oui.
C'est un gars qui avait un rêve, c'est de devenir Monsieur Univers. Il a réussi à le faire. Après ça, il voulait être une vedette de film d'action. Il a réussi à le faire. C'est un self-made man au niveau de l'immobilier. Il est devenu multimillionnaire aussi avec l'immobilier.
Puis
après ça, il s'est dit, tiens, j'ai réussi dans tous les domaines. La politique, ça m'intéresse, devenu gouverneur de la Californie.
D'ailleurs, je passerai pas gros de temps là-dessus, mais si le personnage vous intéresse, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Arnold, qui est une docu-série, là, puis on raconte vraiment sa vie, sa carrière sous ses multiples facettes. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé encore.
Ouais.
J'entends que des bons commentaires. Fait que si le personnage d'Arnold Schwarzenegger vous parle, là, ça peut être une belle affaire à regarder aussi. Fait que bref, tout ça pour dire que ce gars-là, Jérémy Battaglia, s'est lancé dans ce documentaire-là où il veut lancer un débat sur l'encadrement des stéroïdes parce que la possession est légale au Canada, mais non la vente. Sauf que c'est tellement facile de s'en procurer. Fait qu'on parle ici du rapport des hommes à leur image, des conséquences. Puis j'avais le goût de vous faire vivre un peu ce documentaire-là parce que j'espère que... Écoute, c'est 53 minutes. J'espère que vous allez avoir envie de le regarder. Mais je pense qu'il y a quand même des sujets intéressants à travers tout ça. Ce qu'on remarque, c'est de c'est un très jeune âge, ces garçons-là veulent un corps d'Apollon. Ça part souvent d'une photo sur Internet, un film, une image. Puis à partir de ce moment-là, le besoin d'être super musclé apparaît. Je veux vous faire entendre certaines réflexions de jeunes hommes qui sont entendus dans le documentaire, qui ont, mettons, entre comme 17 et 22 ans. OK?
c'est rare qu'on va voir un homme qui est out of shape sur Internet et que quelqu'un va dire « Ah, t'es le modèle d'un homme que j'aimerais être. » Non, ça n'inspire pas la jalousie, ça n'inspire pas la motivation. C'est « Non, je veux pas avoir l'air de cet homme-là, je veux avoir l'air de l'homme qui attire le regard des femmes. »
C'est juste une question d'être en santé puis d'être bien dans son corps, parce que je refuse de croire que quelqu'un qui est, on va dire, obèse est bien dans son corps.
Le fait d'être plus fort, c'est pas vraiment ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment plus l'esthétique, être bien dans sa peau.
T'as bien beau avoir des millions de dollars, tu peux avoir des montres qui vaut super cher, des chars qui vaut super cher, du linge qui vaut super cher. Un corps comme ça, c'est la seule chose que tu pourras jamais acheter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de respect qui vient avec ça.
Je pensais qu'on était rendu ailleurs.
Ben vraiment, mais là je me demande si c'est pas générationnel là, puis... avec TikTok, avec les réseaux sociaux puis tout, parce que moi ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui vont au gym pour s'acheter la santé, être plus fort, être en forme, être mobile,
à leurs
occupations, puis les jeunes papas aussi qui sont plus vieux un petit peu, qui veulent être en forme pour leurs enfants.
Tu sais, moi je vais vous le dire, quand je vais au gym, c'est pour me redresser le dos un peu là. T'sais, pour avoir de l'air de je veux pas avoir de l'air d'une pâte molle. Quand tu commences à vieillir, puis les épaules commencent à aller un peu par en avant, tu commences à avoir le dos courbé. Moi, c'est pas le style de corps que je veux. Mais oui, prioritairement, c'est la santé, comme Pascal l'a dit. Mais je suis pas gêné de dire que quand je vais au gym, il y a un peu d'esthétique là-dedans.
Mais je suis contente que tu l'assumes, parce que je suis peut-être carrément remplie de rose, mais je pensais, quand je dis je pensais qu'on était ailleurs, je pensais que le message qu'on propageait de santé mentale, de faire attention, oui, à son physique, mais pour la santé avant tout. Ouais. Je pensais qu'on était plus rendus là, mais ces jeunes-là, puis si tu parles générationnel, Pascal, mais il y a beaucoup d'histoires dans le documentaire, puis on retourne dans les années 1800, puis ça fait longtemps
que
ça dure.
Mais ça englobe tout ça, mais oui, il y a de l'apparence là-dedans. Ceux qui vous disent le contraire sont tout simplement des menteurs.
Oui, c'est chez les gars.
Mais c'est parce que t'es mieux aussi avec toi-même. Là.
Aussi,
ça joue sur
t'as un sentiment de fierté aussi. Tu te lèves le matin, tu te dis, mais je me sens bien. Il n'y a pas personne qui se sent bien quand t'as une shape de baril de PFK. Là.
Non, probablement pas.
Tu ne te sens pas bien.
Tu peux décider de t'assumer à un certain point, mais je pense effectivement pas que t'es au top de ta forme. Mais ces gars-là que vous avez entendus ont commencé à s'entraîner aux alentours de 14 ans. Okay? Parce qu'ils ont vu des images. Puis quand t'es jeune, on va entendre, ado, t'as pas vraiment d'identité encore. Hein? Tu cherches. Puis la façon de se sentir bien, de s'attribuer une personnalité, bien, pour ces gars-là, c'est par le physique. Là, je généralise, on s'entend, là, mais pour beaucoup de jeunes garçons, c'est par le physique. Honnêtement, quand tu parais bien, bien là, t'es remarqué, t'es accepté, on s'identifie à un groupe. Puis ce qui est triste, c'est que malgré la forme, ces jeunes gars-là ont pas d'estime. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Ils s'aiment pas plus, mais les gens les aiment. Fait que
mais le mental,
ils continuent.
Faut qu'ils suivent, hein? C'est fou.
C'est ça. Je vous parlais d'histoire. T'en apprends beaucoup sur l'origine du culturisme, OK? L'histoire du culturisme qui part quand même de loin, l'idéalisation du corps masculin qui a énormément évolué avec le temps. À la fin des années 1800, l'homme fort est devenu vraiment une icône culturelle. Là, on a découvert une nouvelle vision du corps masculin, là. La première compétition de musculation, Mr. Olympia, qui arrive. C'est pas mal, là, la découverte d'Arnold Schwarzenegger. On est pas mal dans ces années-là. À partir des années 70, les culturistes se sont mis à prendre des stéroïdes, de la testostérone. Connaissez-vous l'origine de ces suppléments-là?
Non. Vas-y.
C'est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. À la fin du 19e siècle, OK, y a un chercheur qui s'est dit « Je vais essayer d'extraire des testicules de chien et des cochons d'Inde. Ce qu'on a dans les testicules, là, ce que vous avez, messieurs, et les animaux et compagnie. » Et s'est servi de ça pour se l'injecter, voir qu'est-ce que ça pouvait donner dans son corps.
Des drôles de passe-temps.
C'est, oh, et puis là, je l'explique très grossièrement, on s'entend, là, c'est pas très scientifique mon affaire. Là.
Mais à part se gratter le derrière des oreilles avec ses pattes, il faisait quoi?
Et là, dans les années 30, bien, on découvre avec ces recherches-là à quel point la testostérone peut amener plus, on a déjà là, dans notre corps, mais à quel point on peut l'utiliser pour pousser notre corps plus loin. On fait beaucoup de... Dans le documentaire, on parle beaucoup de « tu deviens un super-héros ». C'est momentané. Tu peux pas être toute ta vie là-dessus, mais tu te sens comme un super-héros parce que, ben, t'amplifies un peu ce que ton corps a déjà. Maintenant, sur le marché, il y a les fameux SARMS. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est la nouvelle bébelle qui brûle le gras, qui définit le muscle. C'est une porte d'entrée qui est tellement facile parce qu'en quelques semaines à peine, ben, les résultats sont là. C'est fascinant. Je veux dire, ce que t'aurais pu prendre en un an, deux ans, tu le prends en quelques mois à peine. Fait que là, ben, les jeunes garçons vont vers ça. Dans les gyms, on a des entraîneurs. Il y a de la vente qui se fait directement, pas dans tous les gyms, mais comme n'importe quoi, il y a de la vente qui se fait directement dans ces centres-là. Puis au Canada, comme je vous disais, la vente de ces produits-là est illégale, puis aucune assurance sur la qualité de ce que tu achètes. Fait que dans le documentaire, on va parler aussi de certaines situations où t'en as des jeunes garçons qui se sont ramassés à l'hôpital, il y a des troubles qui se sont développés.
Ils n'ont pas régulé ça. Ils n'ont pas trouvé que c'était assez important à travers les années pour...
Mais il y a là le problème. Le but du documentaire, c'est ça.
Mais c'est ça qui est questionnable, en fait. Je comprends pas pourquoi... Puis c'est intéressant le questionnaire en ce sens-là, mais je comprends pas à quel moment on s'est dit ça peut tomber en deux cracks, ça.
Parce que ça devait pas être les seuls.
C'est là où moi, mon sens critique et la lucidité derrière ça, je la comprends pas. Il manque une explication.
Et les stéroïdes ont un des taux les plus élevés de dépendance. C'est pire que l'héroïne, c'est pire que la cocaïne, c'est pire que l'alcool dans les études qui ont été faites. Là, c'est sûr que la stat que je vais vous donner a l'air énorme. Là, on s'entend, mais le taux de mortalité est trois fois plus élevé chez les gens qui prennent des stéroïdes pendant une bonne partie de leur vie que dans la population générale.
T'as une modification du comportement aussi qui peut y aller vers la violence. Puis, tu sais, la violence, ça peut être aussi simple qu'au gym, là, tu te sens tellement surhumain que au lieu de faire tes exercices normaux, tu en fais encore plus, puis là, ta plate, tu la sacres à terre, puis t'es rempli d'adrénaline. Tu sais, on voit souvent ça dans les gyms où les gars, ils se transforment comme en bêtes, là.
Carrément.
C'est n'importe quoi, mais c'est en raison de la maudite dope qui s'est...
Exactement. Le documentaire, en passant, on parle du documentaire Adonis qui est sur Télé-Québec. Jérémy de Battaglia qui est derrière ça, il a décidé d'aller vers ce type de documentaire-là parce que lui a lu le livre Le complexe d'Adonis. C'est sorti il y a une vingtaine d'années. C'est Harrison Pope qui est derrière ce livre-là, puis il est allé le rencontrer dans le documentaire. Fait que si on ne fait pas juste parler à des jeunes là, qui disent leur façon de voir les choses, on parle à des médecins, on parle à des auteurs, des psychiatres. Puis Harrison Pope, qui est justement prof en psychiatrie à Harvard, lui décèle trois problèmes majeurs. Les stéroïdes, parce que ça fonctionne tempête, tu deviens accro. L'image du muscle qui est associée à la masculinité, puis on s'en va là aussi dans le documentaire. Et le syndrome de la dysmorphie musculaire, qui est une pathologie mentale qui s'installe subtilement. Quand tu t'entraînes fort puis que tu veux devenir de plus en plus gros, tu te vois toujours plus petit dans le miroir.
Ouais.
Et le fait de t'entraîner, de te surentraîner un moment, amène des gros enjeux de santé.
Tu sais, puis j'ai un de mes amis qui avait un surplus de poids, là, évident, qui a perdu du poids avec sa chirurgie bariatrique et tout ça. Puis quand il se regarde dans le miroir, il sait qu'il pèse 200-300 livres de moins, mais il se voit encore gros.
C'est fou, hein?
Ouais.
Fait que ça devient mental.
Ben
c'est débile.
C'est ce qu'ils disent tout le temps maintenant. Puis les psychologues, en fait, sont rendus associés avec ces chirurgies-là. Puis des fois, tes séances sont presque obligatoires. Parce que tu peux te faire opérer, mais tu vas reprendre ton poids parce que ta tête ne suit pas.
Oui. Puis Harrison Pope, le psychiatre dont je vous parle, qui est à l'origine de ce livre-là, il nous dit carrément dans le documentaire qu'on ne se débarrassera pas de ce problème-là. C'est beaucoup trop ancré dans nos mentalités. Là. Un autre aspect, parce que je ne veux pas non plus voler le show qu'on fait, je pourrais en parler pendant des heures, la fameuse alimentation, puis ça, on a déjà parlé ensemble. Je veux vous faire entendre un extrait d'un jeune qui se force à manger parce qu'il faut qu'il devienne plus gros. Puis je trouve ça tellement, mais tellement triste. Écoutez comment ce jeune homme-là parvient à manger ses 6000 calories par jour.
Donc ici, on a 200 grammes. De poulet, 200 grammes de riz. Quand je bulk, quand je prends de la masse, le fait que je mange entre 4 et 6 000 calories, des fois, je peux regarder mon assiette pendant une heure. Ouais. Donc, j'écoute des vidéos comme ça. Tout du monde qui mange, qui veut être gros. Puis là, je mange, je dis « Ah, je vais avoir ce dos-là. » Fait que je mange. Parce que si eux autres sont capables, je suis capable aussi. J'ai hâte d'être gros comme lui.
OK, attends un peu. Là. Il mange toutes ses 6000 calories par jour, puis des fois, ben, il n'a plus faim, fait qu'il reste devant son assiette, puis il regarde des vidéos de gens qui mangent.
De gens qui sont plus gros que lui, plus musclés, qui mangent pour le motiver, pour dire « je vais être comme ça si je mange mon assiette ». Et écoute, le cœur, il lève, là. C'est dégueulasse.
Ben, c'est clair.
Ces gars-là se lèvent la nuit pour manger, là, parce que je dis 6000 calories, c'est énorme, là, puis ils mangent santé. Fait que c'est pas pire long à atteindre ces calories-là.
J'ai pas avoir discuté avec Hugo Gérard, puis Jean-François Caron, puis mon chum Jocelyn Lusignan, s'il nous écoute, je sais que c'est un auditeur. Tu sais, ces gars-là, là, c'est du 6, 7, 8 repas par jour. Là. À un moment donné, tu ne goûtes plus les aliments, c'est que tu te sens le besoin de manger pour pouvoir être capable de te ramasser à tes compétitions, puis être capable de lever les charges hyper lourdes. T'sais, eux autres, ils n'ont rien à voir avec ces jeunes-là, mais... Ils n'ont pas le choix. Ils doivent manger toutes les calories nécessaires pour être capables de lever des charges hyper lourdes. C'est une job, là.
C'est carrément une job.
Les auditeurs ont remarqué aussi le ton de la voix du jeune homme. Comme quoi, ça parle beaucoup.
Ah, il est malheureux, là.
C'est une détresse. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que c'est un tiers des jeunes garçons qui entrent dans ce processus de prise de masse extrême-là. Puis là, tu sais, on parlait tantôt de troubles mentaux, mais tout le stock que tu associes à ça, là, des excès d'acné, des troubles érectiles, des problèmes avec les os, des infections qui se développent aussi avec le temps. Là, il y a beaucoup de négatifs dans ce que je vous apporte, mais il y a une partie du documentaire que je trouve intéressante, c'est qu'on essaie quand même d'éduquer les jeunes par des gens qui les inspirent sur les réseaux sociaux, OK? Il y a un gars qui s'appelle Marc-Antoine Gondin, puis je veux qu'on l'entende ensemble. C'est un gars qui a fait beaucoup de culturisme au Québec.
Oui, c'est un gars qui est coloré, c'est un gars que j'adore.
Il est vraiment trippant. Puis lui accompagne les jeunes qui veulent se surentraîner, justement. Puis l'éducation, comme je vous dis, devient importante. Je vais vous faire entendre un bout de ce qu'il dit dans ce documentaire-là.
Je l'ai pratiqué parce qu'il y a que les faillés qui en faisaient. Puis aujourd'hui, on vend ça comme si tout le monde pouvait faire ça. Comme si tout le monde avait le potentiel de gagner, d'être champion, d'être bon. Et c'est pas vrai du tout. Et c'est sur ces gens-là que les jeunes aujourd'hui se modélisent. Puis là, ils regardent ça, puis j'ai des gars, là, ils ont 19, 20 ans, là. Ouais, ben là, on me parle de Trenbolone, on me parle de Sustano, on me parle de Prima Bolland. Ben moi, je trouve que tu parles pas mal trop, là. On s'entend pas, là. Faire de la Trenbolone à ton âge, mais non, t'es fou, là. Je les éduque à ça, je les arrête, je mets le frein. Déjà là, en partant, travaillez donc toujours avec des gens qui vont vous conseiller comme il faut. Parce que selon votre âge, selon vos expériences, selon votre passé sportif, selon vos blessures, on ne peut pas répondre à chacun de ces besoins-là avec un produit. Ça ne fonctionne pas comme ça. On leur vend des images d'hyper-développement, d'hyper-sexualisation, de super-masculins symboles qui sont tout à fait erronés. Il n'y a pas un gars à l'Olympia qui est en santé. Sont en shape. Ils sont pas en santé.
Puis lui, il s'entraîne depuis des décennies, décennies. Je sais pas si tu as déjà vu la shape, là, mais il s'entraîne depuis des décennies,
Tout
puis...
un personnage.
Puis mentalement, il est spécial aussi.
Mais il est fâché, on l'entend, qu'il a dû côtoyer une couple de jeunes brainwashés. Puis il y a quelqu'un qui nous écrit qui en a pris de 21 à 24 ans environ, puis il dit... Quand tu commences, c'est l'enfer ce qui arrive avec ta tête. Tu vires en dépression en plus, directement ou presque. Puis il dit, vous me rappelez mon adolescence, j'en ai tellement pris, ça n'a pas de bon sens. Il dit qu'il est trop gêné pour nous appeler, mais il dit, pour moi, commencer, c'est devenir plus fort, grossir plus vite.
Ouais.
C'était son objectif, mais il n'y avait rien d'autre à côté de ça. Puis même si tu penses que ta santé mentale va aller mieux parce que ton image change, finalement, elle se détériore parce que les impacts sont, les collatéraux sont plus forts.
Mm-hmm. Tu sais, quiconque veut un six-pack, là, c'est tout ce que ça prend pour essayer d'avoir le six-pack. Il y en a qui sont capables de l'avoir naturellement, mais quand tu regardes les athlètes olympiques, là, quand tu as la chance d'avoir des avoir en chest, là, la plupart n'ont pas de six-pack.
Mais non!
Mais c'est des gens qui s'entraînent pour aller aux Olympiques.
Mais c'est ça.
Fait que t'imagines-tu tout ce que ça doit prendre pour en avoir un vrai? Fait qu'imagine-toi quand tu t'en vois qui ont ça naturellement, là, ou que ça fait 2-3 mois qu'ils s'entraînent, sont rendus avec un six-pack. C'est pas naturel.
Mais ça prend des gars comme Marc-Antoine Grondin. Ça m'encourage aussi. Parce qu'à travers ce documentaire-là, même si je suis pas un homme puis j'ai pas les mêmes... Je me suis reconnue à certains points de ma vie où je voulais donc là, rentrer dans le moule et l'image parfaite.
Ouais.
Je vais terminer avec une question qui est super simple.
Puis je veux la poser à mes collègues. Je vais commencer avec toi, Audrey. C'est quoi un homme?
C'est quoi un homme? Ben écoute... tu m'as dit ça, puis le premier mot qui m'est venu en tête, puis peut-être que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est sensibilité.
Brad Pitt!
j'ai pas cette vision-là.
Non,
mais le pire, c'est-tu quoi? Je vais te confier quelque chose. Avant que je rencontre mon chum, j'étais une petite coureuse de bad boy. Là. J'aimais ça les gars mystérieux qui dégageaient quelque chose de bien viril. Là, puis,
Et ton chum est pas de main. Viril, c'est pas ça?
Que je dis. Non, mais mon chum est une personne au cœur sur la main, une personne très, très délicate à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui a une super belle sensibilité.
Mais c'est quoi un homme?
C'est dur à répondre. Mais c'est quoi un homme? Pour moi,
moi, c'est quelqu'un qui se confronte plus, qui est capable de confronter les autres. C'est quelqu'un qui va se
qui se challenge.
Qui se challenge plus personnellement.
Mais les filles font pas ça?
Mais aussi...
Non, mais c'est plus facile émotionnellement, je pense, pour la femme d'aller dans ses émotions, d'aller se comprendre, d'être aussi très empathique et d'avoir de la considération face à l'autre. Je pense qu'un homme, en tout cas en 2024, dans ma définition, du moins ce que je recherche, c'est quelqu'un qui est capable d'aller creuser loin en lui pour justement être la meilleure version de soi-même, pour de vrai en mettant l'impact sur les
autres. Toi, c'est la personnalité que tu recherches, mais c'est quoi un homme? Comment on définit un homme en 2024? Parce que si on regarde les hommes, c'était quoi, mettons, des années 1800, Puis versus les femmes, c'était quoi des années 1800? C'est assez clair, tu sais. Mm. La dame devait s'occuper du foyer, elle travaillait extrêmement fort au niveau
dans
social.
Leur rôle.
C'était elle qui était sociale, elle avait des enfants, était proche des enfants et tout ça. Puis là, tu avais le père qui, lui, était le gros travailleur, mm. qui était celui qui tapait les enfants le dimanche parce que toute la semaine, il était pas là. Puis là, ben, le dimanche, t'as le temps de taper les fesses parce que le petit Luc avait pas fait ce qu'il avait à faire à la maison.
Le rôle social a énormément changé.
Et aujourd'hui, en 2024, là, demander à n'importe qui c'est quoi un homme, là?
C'est pas défini.
Il n'y a plus personne qui
sait
c'est
quoi. Mais c'est quoi une femme, d'abord?
Fait qu'il met... Mais on le sait pas plus.
C'est ça.
Moi, je pense que la personnalité fait en sorte... Les personnalités que tu recherches, ils peuvent être différentes, mais c'est quoi une femme en 2024 versus un homme? On dirait qu'il n'y en a plus de différence.
Mais j'haïs pas différence ça.
Si ce n'est que nos organes.
Moi aussi, j'aime ça.
T'haïs pas ça, mais le jour où on va avoir une troisième guerre mondiale ici, tu vas voir la différence.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben regarde en Ukraine, qu'est-ce qui se passe?
Mm-hmm.
Les gars n'ont pas le droit de quitter le pays.
Ouais.
Les femmes et les enfants ont pu se pousser
non,
et avec raison.
Tu t'en dis que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
Ben moi, je trouve que c'est une très bonne, bonne chose là, que les filles qui voulaient être capables de conserver leur famille, les enfants, tout ça, moi, ça serait mon réflexe. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, chérie, tu pars avec les enfants. Ben là, je suis séparé, fait que ça serait la maman de mes gars. Tu pars avec les enfants, ma chum. Tu pars avec les enfants, ma blonde, ça serait la même chose. Tu pars avec tes enfants, puis on va essayer de faire en sorte qu'on sauve le pays. Si les femmes veulent combattre à nos côtés, ça va être ça. Mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, si jamais un jour il y a une troisième guerre mondiale, je suis pas mal certain qu'on va faire la différence entre les hommes et les femmes.
Puis pourquoi on vous condamne à ne pas pouvoir choisir? Tu sais, quand l'enrôlement était obligatoire, puis on voudrait pas que ça revienne nécessairement en 2024. En même temps, je comprends que tu vas dire qu'il faut du monde, c'est une guerre.
Ça prend du monde. Mais... Ils vont empêcher les gars de se sauver.
Mais culturellement, je pense qu'on a encore ça. C'est notre histoire. Je veux dire, on la traîne. Là.
C'est ça.
Je pense qu'on a encore ça.
Quand ils ont dit aux gars, hey, vous devez absolument aller à la guerre, puis les gars ont dit, ouais, c'est vrai, je suis célibataire, il faut que j'aille à la guerre. Bien, il y en a qui ont fait deux choses pour pas aller à la guerre.
Se mutiler.
Il y en a qui se sont mutilés, puis il y en a qui ont fait encore pire, ils se sont mariés. Quoi? Ça fallait pas juger ça.
Encore pire!
mais c'est vrai. Fait que c'est quoi un homme? C'est quoi une femme en 2024? Demandez à tout le monde autour de vous, là. Bon, mis à part les grands philosophes, là, comme, je sais pas moi, Régent.
Oui, ben ouais, oui, Régent.
C'est capable de nous dire c'est quoi un homme. Mais moi, je sais pas c'est quoi un homme aujourd'hui.
J'ai de la misère à te le dire aussi, pour être bien honnête. Je pense que mon réflexe, c'est de te dire ce que j'aime chez un homme, drôlement. Mais non, c'est dur à définir. Par contre, les gars de ce documentaire-là, que je vous rappelle, sont entre 18, mettons, et 22, ont une définition claire de ce que c'est un homme.
Je pense qu'on a un petit côté animal plus que les filles.
Oui, ben oui.
Sur la défense de notre famille... Quoique j'ai rencontré des filles qui ont un côté très fort.
J'allais te dire, le côté maternel protecteur est assez présent chez la femme aussi. Mais c'est parce que c'est ça, mon Dieu, ça a tellement évolué.
Il y a des différences aussi entre la testostérone et l'estrogène. Pour la conception de l'homme et la femme, là, ça existe.
J'ai le goût qu'on écoute les gars, puis je veux savoir ce que vous en pensez après.
Ah, c'est sûr que j'ai un peu plus une vision alpha, comme l'homme alpha, genre super musclé, super confiant, qui fait beaucoup d'argent.
Je suis un peu vieillot là-dessus. C'est sûr que pour moi, un homme, c'est pas faut aller au gym, tu sais, faut que tu sois, tu sais, baraquin un peu, tu sais.
Quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins de sa femme, par exemple, ou son homme, au pire. Il a un corps qui prouve sa discipline et son respect envers lui.
Selon moi, un homme se doit d'être capable d'être dangereux, de protéger sa famille, de protéger ses proches.
Mais comme un lion. Tu montres pas d'émotion. T'es là pour tout le monde. D'être l'espèce de punching bag pour tes proches. Parce que c'est toi qui... T'es la brute, là. T'es la personne.
Mon Dieu.
C'est weird, hein? Il y a beaucoup d'apparences dans ce qu'ils disent, puis il y a beaucoup de choses qui sont traditionnelles, mettons.
De fausses forces, là, de pression sur la force.
Mais tu sais, moi, dans ma tête,
la pointe de repère de tous.
On échoue, là, ça veut dire, dans notre façon de propager le message que t'es pas obligé d'être ça, là. C'est pas ça, là,
je comprends.
Masculinité.
Mais tu sais, dans tout ce qu'ils ont dit, il y a des endroits où je me retrouve, tu sais, le punching bag, des fois, je me retrouve là-dedans. Parce que si toi, t'acceptes pas d'être le punching bag, c'est qui va l'accepter une fois de temps en temps, tu sais?
Oui.
Je
pense que on doit tous, en fait, l'accepter. Là.
Je pense que ça dépend.
Si t'es en couple, là, c'est jamais 50-50. Il y a des moments où, mettons, ton conjoint, ta conjointe va être à 60% de sa capacité, puis toi, 40, puis ça va s'échanger aussi. Puis c'est ça où, dans l'équilibre du couple, tu vas être capable toujours de t'aider, de te supporter, puis d'être une équipe. T'es jamais 50-50. Fait que d'être le punching bag de quelqu'un, je pense que ça s'échange aussi comme position.
Alors, des fois, je suis le punching bag de mes enfants. Des fois, je suis le punching bag de bien du monde. Puis à un moment donné, il faut juste que t'encaisses. Puis tu dis, à un moment donné, ça va passer, tu sais.
Mais c'est pas bon.
Oui, mais on est tous comme ça.
Oui, à quelque part, oui. Mais tu sais, c'est ce que tu aimerais transmettre à tes gars, mettons, encaisse, petit gars, tu sais.
Ben, je pense pas que j'ai.
Fais avec.
Ben, c'est pas acheter la paix. C'est juste qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça sert à rien. Puis tu l'acceptes. Puis à un moment donné, ça passe, puis on passe à d'autres choses, tu sais. Parce que si les gens vont toujours à la guerre et abandonnent jamais ou ils laissent jamais passer, il y a des choses qui valent la peine de se battre pas, il y a d'autres choses que tu dois laisser passer. Le côté punching bag, moi, c'est plus de ce sens-là. Si c'est vraiment quelque chose de grave et que je peux vraiment pas le laisser passer, je vais le faire. Mais d'être punching bag une fois de temps en temps à la maison ou avec mes enfants qui me reprochent certaines choses, même si je sais que...
Tu choisis tes combats, finalement.
Oui, mais je le fais pour les bonnes raisons. Nous autres, on n'a pas une règle à la maison, on a deux règles. J'en ai une pour mes enfants, puis j'en ai une pour les enfants de ma blonde. Ils se couchent pas en même heure, ils ont même âge. Mm-hmm. Mais mes gars, je les couche avant. T'sais, moi, ils se couchent à 8h30. Du côté de ma blonde, elle peut se coucher à 9h, 9h30. Mais moi, c'est 8h30 parce que la routine dans l'autre maison, chez leur mère, c'est 8h30 pour l'école. Fait qu'il faut que je respecte ça. Mm-hmm. Mais des fois, je me fais dire, mais pourquoi tu ne t'écouches pas plus tard?
Ben, je dis, ben, tu te fais challenger.
Fait que là, tu comprends que là, faut, ben, c'est parce qu'il faut que je respecte ce que la mère veut aussi. On est une équipe, moi, puis la mère, il faut que je respecte ça aussi. Mais tu comprends que j'ai pas raison.
Ouais,
de l'autre
comprends.
Côté. Fait que j'accepte d'être punching bag.
Je comprends totalement. Je pense juste qu'il ne faut pas associer à un certain point le gars à...
Parce que deux hystériques ensemble, là, ça ne marche jamais.
Non, mais c'était plus criant.
Deux personnes qui lâchent jamais le morceau dans un couple, homme-femme, ça ne marche jamais.
Tu vas nulle part.
Fait que tu dis, à un moment donné, il faut juste laisser passer les choses. Puis c'est la raison, c'est le secret des couples heureux en passant. Là.
Ah, mais
oui, de
ne
pas s'arrêter
sûr.
Sur des petites affaires, là.
Fait que bref, ce que vous avez entendu, ces gars-là qui ont une définition assez particulière de la masculinité. Moi, ça m'a fait de la peine. J'ai trouvé ça triste là, qu'à un si jeune âge, t'aies l'impression qu'il faut que tu sois l'ancrage de ton entourage. Là. Ouais.
C'est lourd.
On essaie d'aller un peu à l'encontre de ça en disant « Hey, Bodé, t'as le droit, toi aussi, là, de parler bien de temps en temps. » Fait que je trouve ça... Je comprends d'où ça peut venir dans une certaine éducation, dans une certaine culture.
Mais c'est traditionnel.
C'est très traditionnel. Sauf que tu vois que c'est un message qui se passe beaucoup, beaucoup. On parlait de culturisme, on parlait de muscles, d'entraînement. C'est un message qui se passe beaucoup là-dedans. On a parlé dans l'actualité d'Andrew Tate, là, ce créateur de contenu-là qui fait à croire à ces jeunes-là que, tu comprends, les femmes sont supérieures aux femmes puis qu'il y a carrément là, deux... Ce gars-là est fou. Là, si
mais il y a des podcasts en français de Québécois en ce moment qui sont épeurants.
Mais j'essaie de déterminer
pas faire de
qu'est-ce
promotion,
qu'il y a
là,
de
mais...
spectacle. Tu sais, il y a du spectacle dans ce que les jeunes Québécois mentionnent. Là. J'ai écouté deux, trois de leurs podcasts. Puis il y a une part de spectacle, puis il y a des affaires aussi qui sont vraies, mais qu'on ne dit plus aujourd'hui, qu'on ne peut plus dire.
Oui, mais c'est quand même dangereux pour des jeunes qu'on entend en ce moment dans le reportage que Audrey nous amène avec leur conception de la vie puis leur conception de ce qu'ils devraient être. D'avoir des podcasts comme ça sur lesquels ils peuvent s'abreuver en plus puis cristalliser certaines façons de penser qui finalement vont juste leur faire du mal.
Ouais. Je me souviens pas si c'est dans un podcast de Tate que j'avais entendu ça ou encore si c'est dans le podcast que tu me parles des Québécois, mais c'était l'obligation de laisser sa femme à la maison. Elle doit rester à la maison parce que selon eux, la société a commencé à dérailler quand les femmes ont commencé à travailler.
Tu trouves pas ça débile, ça?
C'est totalement débile. Okay. Mais je me dis, il penses-tu vraiment ou c'est pour faire jaser?
Ben j'ai l'impression que c'est un doux mélange des choses.
Puis c'est
là,
dangereux pareil, là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la... Il y a des gens qui n'ont pas la conscience mentale de voir si c'est du spectacle que ça en est, puis ils vont vraiment se baser là-dessus, puis ils vont traiter les autres avec leur croyance cristallisée d'un podcast comme ça. Là.
Ah, c'est une question d'équilibre puis d'éducation. Puis je... En tout cas, pour ma part, je vais fermer là-dessus, mais je trouve que ce documentaire-là, d'ailleurs, il y a un podcast qui vient avec le documentaire qui s'appelle aussi Adonis, qui est créé par la même personne, si vous voulez un peu plus de dessous du gym. Là. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié, honnêtement, mon écoute. 53 minutes Télé-Québec, c'est gratuit. Puis vous voyez vraiment toutes les sphères autant du culturisme, l'alimentation qui vient avec ça, les stéroïdes, le problème que c'est pas contrôlé, justement, au Québec, au Canada. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Honnêtement, je suis encore mitigée sur ce que j'en pense, mais je trouve qu'il y a beaucoup à retenir.
Eh oui, merci beaucoup, Audrey. On fait une courte pause. Midi 12.
Marceau, le midi.